franceinter.fr.
À qui appartient la vie des océans? Question d'avenir et de partage des richesses aujourd'hui à la une de la science, alors que le groupe BASF, le géant allemand de la chimie, détient 47% des 13 000 brevets sur le vivant océanique. Il les dépose depuis 30 ans, bien c'est le principal résultat d'une étude menée par des chercheurs français et suédois. Pour comprendre justement comment cette situation de monopole s'est construite et ce qu'elle implique dans l'avenir, on reçoit Axel, un des auteurs français de cette étude, paru dans la revue Science Advances.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Jean-Baptiste Jouffray, bonjour. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en développement durable à l'Université de Stockholm, spécialiste en écologie marine et avec votre directeur de thèse Robert Blasiak, vous avez voulu savoir à qui appartenaient tous ces brevets déposés depuis 30 ans. Alors la première question est très simple, pourquoi personne ne l'avait jamais fait depuis 30 ans? Ça paraît insensé.
Alors, insensé, peut-être pas, mais parce que c'est d'abord compliqué d'obtenir l'information. Ce qui avait été fait jusqu'ici, c'était de se focaliser sur les pays dans lesquels les brevets avaient été déposés. Et donc, il y a une étude avec une chercheuse française, d'ailleurs Sophie Arnaud-Ahon de l'IFREMER, je crois, qui était sortie il y a une dizaine d'années, un peu moins, et qui montrait que déjà, les brevets avaient été déposés dans un tout petit nombre de pays. Qui posait des questions d'inégalité. Ce que nous avons fait, nous, c'est d'aller une étape plus loin et non seulement de regarder les pays, mais aussi les entités, les acteurs au sein de ces pays qui en l'occurrence, déposaient les brevets, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi, des universités ou des entreprises.
Et là, on découvre de grandes entreprises et notamment une.
Alors voilà, alors là, un des résultats les plus surprenants peut-être de notre étude, c'est qu'en effet, une seule compagnie, une grande compagnie multinationale allemande, BASF, a déposé plus de 47% de tous les brevets sur les séquences génétiques associées aux ressources maritimes.
Qui se partage les 53% restants, la proportion d'entreprises et peut-être d'universités?
Eh bien alors, les universités, si vous voulez, sur les 100%, ce n'est que 12%. Donc ouais. C'est une minorité. Donc 84% de toutes les brevets sur les séquences génétiques en provenance d'organismes marins ont été déposés par des entreprises.
Qu'est-ce qui a motivé votre travail au départ, Jean-Baptiste Jouffray, avec votre équipe? Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir exactement alors?
D'abord la curiosité, c'est-à-dire que on est toujours poussé par une curiosité de comprendre le vivant, de comprendre l'interaction entre l'homme et l'environnement. Mmh. On travaille particulièrement au Stockholm Resilience Center où je fais ma thèse. Nous travaillons sur les systèmes qu'on appelle socio-écologiques, c'est-à-dire où l'homme est vraiment considéré comme une partie intégrante de l'écosystème. Et donc à ce titre-là, il nous a paru intéressant de se pencher sur la question sur quels sont les acteurs sociétaux qui sont à l'œuvre dans l'industrie de la biotechnologie. Parce que c'est une des grandes industries qui possède les promesses du futur quand il s'agit de l'économie bleue. On parle beaucoup d'économie bleue, c'est-à-dire d'aller extraire des minéraux du fond des mers, d'aller pêcher, d'aller extraire des ressources génétiques. Et donc c'est un pilier de cette économie bleue.
Justement, à quoi correspondent précisément ces brevets? Que peut-on breveter quand on s'intéresse aux vivants et qu'on va à la pêche aux êtres vivants?
Alors c'est très intéressant, mais c'est aussi très différent en fonction des pays dans lesquels vous déposez votre brevet. Par exemple, en Europe, tout ce qui est Europe, Japon, Canada, le Royaume-Uni, eh bien vous pouvez déposer un brevet sur une séquence génétique. C'est-à-dire que par exemple, vous affrétez un bateau, vous allez au large, vous avez un sous-marin, vous descendez dans les abysses, vous prélevez un organisme, quel qu'il soit, vous revenez en laboratoire, vous extrayez le gène dans une des molécules de cet organisme, et vous déposez un brevet sur une séquence génétique. À l'inverse, aux États-Unis ou en Australie, par exemple, eh bien, la législation interdit de déposer un brevet sur du vivant. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous déposiez un brevet sur un processus. Pas seulement sur une séquence vivante, mais il va falloir faire preuve d'une activité inventive. Ce qui est une grande différence d'un point de vue juridique. Par exemple, quelque chose qui serait associé à un processus, c'est-à-dire aux États-Unis, vous pourriez utiliser des micro-organismes, par exemple une enzyme extraite de microbes en provenance des abysses, donc dans ce cas précis au beau milieu de l'océan Atlantique, si vous voulez, qui est utilisée pour réguler la viscosité des biocarburants. Et donc ça, vous n'allez pas seulement breveter l'enzyme ou la séquence génétique en elle-même, mais vous allez breveter le processus qui consiste à l'associer à des biocarburants. Oui. En Europe, vous auriez pu, par exemple, breveter seulement la séquence génétique pour en faire un usage futur.
Alors, cette chasse aux protéines marines, elle dure depuis 30 ans. Est-ce qu'elle a vraiment porté ses fruits d'un point de vue scientifique et peut-être même industriel? Est-ce que vraiment elle a fait s'enrichir certaines personnes?
Clairement, déposer des brevets, particulièrement dans le domaine marin, est très coûteux. Il vous faut payer pour la recherche, pour l'extraction, pour le travail de laboratoire, et le plus souvent, ce sera à perte. Donc ensuite, il y a toujours l'idée d'avoir cette la découverte comme une sorte de mine d'or, le futur aspirine en provenance de ressources maritimes. Il y a beaucoup d'espoir pour la recherche médicale, entre autres, tout ce qui est anticancéreux ou même la lutte contre le sida en provenance d'organismes marins. Mais c'est très difficile à l'heure actuelle d'évaluer si ça a été profitable ou pas. Je crois qu'il n'y a qu'une poignée de médicaments à l'heure actuelle qui sont sur le marché et qui sont en provenance de molécules d'organismes marins.
Est-ce que vous avez pu discuter avec des acteurs de l'industrie, peut-être même des personnes de chez BASF? Quelle est leur vision de l'avenir? Pourquoi est-ce qu'ils engrangent comme ça des brevets concernant le vivant?
Alors, BASF, c'est le plus grand groupe de chimie au monde. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont cette expérience et ça ne date pas de 30 ans. Ils ont commencé bien avant. La recherche, la bioprospection marine est assez récente comparée à même dans le domaine terrestre ou à d'autres industries. Et si vous regardez les comptes de la compagnie ou au cours du temps, vous voyez que, par exemple, BASF a investi près de 2 milliards d'euros en 2017 dans la recherche et le développement. C'est-à-dire que ce type de recherche innovante est clairement un élément crucial de la stratégie de développement de l'entreprise. Et donc, si vous voulez, c'est pas seulement négatif, hein, parce que beaucoup de ces innovations permettent des développements, soit médicaux, soit biotechnologiques, qui bénéficient à la société. Mais je pense que c'est au cœur du programme de BASF, et il se trouve que, puisqu'il y a une attention grandissante vers les océans, c'est juste dans la continuité de ce qu'ils ont toujours fait en termes de recherche et de développement, que ce soit sur le milieu terrestre, synthétique, avec la chimie, et maintenant peut-être dans les océans.
Sauf que Jean-Baptiste Jouffret, le brevetage du vivant de la part de ces grandes entreprises, c'est aussi une confiscation d'une certaine manière de tout ce qui existe dans la nature.
Ce n'est pas forcément inquiétant, je pense que c'est interpellant. C'est-à-dire que d'avoir une seule compagnie, une seule entreprise qui a déposé plus ou moins la moitié de toutes les séquences associées à des organismes marins, c'est interpellant. Ensuite, c'est aussi tout à fait en ligne avec ce qu'on observe, la concentration dans d'autres industries. C'est-à-dire que la concentration est une tendance générale que l'on observe à l'heure actuelle, que ce soit dans le système financier, avec seulement quelques banques qui dominent, que ce soit dans l'agro-industrie. Et si vous voulez, récemment, c'est illustré par l'extrême concentration dans le marché des semences, notamment avec la récente acquisition de Monsanto par le groupe allemand, de nouveau, Bayer, ou bien encore dans la pêche, où chaque fois on voit de plus en plus de grandes multinationales qui ont une influence disproportionnée. Donc c'est interpellant, mais c'est finalement assez commun.
Voilà, et donc le résultat de cette étude que vous avez menée avec des confrères français et suédois, Jean-Baptiste Jouffret, le groupe BASF, donc le géant allemand de la chimie, détient depuis 30 ans 47% des 13 000 brevets sur le vivant océanique. Merci beaucoup sur ces précisions, et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, quand faire du sport en ville n'est pas toujours bon pour la santé. Greenpeace a mesuré le taux de dioxyde d'azote sur les complexes sportifs de trois grandes villes, Marseille, Paris et Lyon. Et les résultats sont pour le moins inquiétants. Presque tous dépassent les valeurs limites prônées par l'OMS à des périodes de l'année où la pollution n'est pas maximale. La pollution provenant du trafic routier autour des terrains serait inhalée 4 à 10 fois plus par les sportifs, induisant des risques accrus de crise d'asthme pour les enfants et d'infarctus pour les adultes. Ce n'est pas un, mais deux fossiles rares de reptiles datant du Permien qui ont été découverts en Russie. Crâne imposant, dents acérées, deux nouvelles espèces de prédateurs de type gorgonopsien, de très gros lézards habiles et rapides, de la taille d'un loup, ont été identifiés à partir de leurs ossements. L'étude permettra aux scientifiques de mieux comprendre l'évolution du règne des mammifères au moment donc de l'extinction de masse du Permien il y a 260 millions d'années. Et puis des Incas doués pour la chirurgie, après avoir analysé des centaines de crânes de l'ère précolombienne découverts au Pérou, des bioarchéologues déduisent que les civilisations Incas réussissaient environ 80% de leur trépanation, une opération qui consiste à percer un trou dans l'os du crâne afin d'accéder au cerveau. Les Incas auraient même des taux de survie à ces opérations meilleurs que les docteurs de la guerre civile américaine pendant la guerre de sécession, alors que 400 ans les séparent dans l'histoire.